quoi penser dans le temps d'attente pour l'entrée dans notre vision? Là, ce qu'on va parler ce soir, c'est que des gens, des chrétiens, que quand ils sont venus au Seigneur, ils ont eu des visions, ils ont eu des promesses de la Bible qui les a touchés, puis ils étaient sûrs que c'était des promesses que Dieu leur donnait. Ils ont vu une vision de l'œuvre de Dieu, puisque Dieu les appelait. Ils ont peut-être entendu des prophéties sur ce que Dieu était pour faire dans leur vie. Toutes sortes de manières. Dieu a parlé, puis il a déposé des choses dans notre cœur. Puis là, on s'est engagé, on dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. Puis là, je veux me consacrer, puis je veux travailler pour toi. » Là, tu as une conviction qui est née. Tu sais que Dieu t'appelle à des choses extraordinaires. Puis tu sais que Dieu t'a peut-être fait des promesses. Puis que c'est des choses que tu attends avec de tout ton cœur. Mais il arrive des fois qu'un temps d'attente entre le temps qu'on est pleinement convaincu puis qu'on s'est engagé. On aime le Seigneur. On suit le Seigneur. On fait des choses pour le Seigneur. Mais les promesses, des promesses précises de vision, de rêve, de choses que Dieu nous a demandé ou qu'il nous a promis, on voit que ce ne sont pas encore accomplis. Comment je dois prendre ça quand je vois qu'il y a un temps d'attente avant que ça arrive? Parce que on va voir des exemples dans la parole de Dieu, plusieurs exemples de gens qui ont vécu ce moment d'attente-là. Puis comment est-ce que Dieu nous demande de réagir? Puis à quoi ça? Pourquoi Dieu attend pour exaucer certaines prières ou certaines visions ou certaines promesses qu'il nous a faites? Parfois, on doit faire face à une attente avant qu'elle s'accomplisse, puis cette attente-là est décourageante. Il y a des gens là qui ont reçu des convictions que Dieu les appelait à être des pasteurs ou des ouvriers dans l'œuvre, des missionnaires ou des grandes œuvres. Puis ils sont pas encore là, même après 20 ans de vie chrétienne. Puis ils attendent, puis ils attendent, puis ils attendent. Puis Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Le Seigneur, il veut qu'on comprenne une chose. C'est pas parce qu'on va faire bien des efforts ou parce qu'on va manifester beaucoup d'impatience que ça va le faire avancer plus vite dans l'exaucement des prières. Parce que des fois, il y en a qui s'irritent. Puis là, il commence à bouder Dieu. Il commence à en vouloir à Dieu. Il commence à prendre du recul même face. Seigneur, ça prend du temps. Tu m'as promis de sauver mes enfants. Mettons, c'était une promesse de sauver. Puis ils sont pas encore sauvés. Puis les gens sont comme las d'attendre. Il y a une chose qu'on doit comprendre en partant. Tout ce qui est des œuvres spirituelles dans notre vie. On peut vivre notre vie là 100% sans Dieu. Puis on va faire une vie charnelle, une vie selon le monde. Là. On va aller travailler, ramasser de l'argent. On va faire notre vie sans Dieu. Mais toutes les œuvres spirituelles. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui nous dit que tout vient de Jésus. C'est Jésus qui décide le temps, le moment, qui décide d'ouvrir une porte ou de la fermer, ou de fermer une porte, Il y a un verset dans l'Apocalypse qui nous dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Faut en partant, quand on décide de s'engager à suivre le Seigneur puis qu'on reçoit des promesses de Dieu, faut réaliser que c'est juste le Seigneur qui décide d'ouvrir les portes ou de les fermer. Puis quand lui rouvre une porte, il n'y a personne qui peut les fermer. Puis quand il ferme une porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Il faut apprendre à dépendre de lui. Puis de s'attendre à ce que lui rouvre la porte qu'il nous a promis. Des fois, ça fait mal à notre orgueil, parce que nous autres, on aimerait les affaires tout de suite. On est habitué de même dans la vie qu'on vit aujourd'hui. On met 2 piastres dans la machine, on paye sur le piton, puis le gâteau, il sort. C'est l'ère du presse-bouton. Tu presses un bouton, on veut ça tout de suite. Puis on pense que dans le plan de Dieu, ça marche de même. Non. Faut apprendre à se soumettre que c'est Jésus qui rouvre les portes puis qui les ferme. Puis c'est lui qui va ouvrir notre porte puis qui va nous fermer des portes selon sa volonté. Puis quand on s'engage à suivre le Seigneur, on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On t'accepte comme notre Seigneur. C'est toi qui nous mène dans ce que tu t'attends pour nous, ce que tu as préparé pour nous. Il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Il y a un autre passage dans Actes 1, 7 qui parle un peu de cette chose-là. Jésus est en train de répondre aux disciples. Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dieu a déjà fixé des rendez-vous divins dans notre vie. Il a déjà fixé des moments où ce qu'il va accomplir ses miracles, ses exaucements de prière, où ce qu'il va manifester sa puissance, où ce qu'il va manifester ses dons, où ce qu'il va faire ci ou faire ça. Le Saint-Esprit, là, il travaille avec Dieu le Père. Puis un verset qui nous dit, le Saint-Esprit distribue les dons en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui décide à quel moment qu'un événement se produit, puis à quel moment qu'un autre sorte d'événement se produit. Le Père a fixé, de sa propre autorité, il a fixé des moments précis où ce qui va se passer telle et telle chose dans notre vie. La seule affaire qui est importante, c'est d'être là au rendez-vous quand que ça arrive. Parce que c'est sûr que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Il s'agit juste d'attendre son timing à lui. On a hâte d'y entrer, mais Dieu, il n'est pas pressé. Dieu, il n'est pas pressé. Nous autres, on est pressés. On veut que toutes les choses se fassent rapidement. Dans Ecclésiaste 3, le verset 11, ça dit que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que lui, toutes les bonnes affaires à faire dans notre vie, ce qu'il y a de meilleur à faire pour nous, il sait quand que c'est le meilleur temps pour faire les choses les meilleures dans notre vie. Il a déjà préparé ça d'avance, ces moments précis, de faire les meilleures choses pour nous. Tout ce qu'on attend, tout ce qu'il nous a mis dans notre cœur comme désir, d'aspiration, de vision, puis de choses qu'on veut entreprendre, il y a un temps fixé, c'est lui qui décide, puis il fait toutes les choses bonnes en son temps.
Parce que c'est lui notre papa, hein?
C'est lui notre papa. Puis ça a l'air qu'il connaît mieux que nous autres quel est le meilleur temps pour chaque affaire. Si on y fait confiance, ce n'est que des projets de bonheur. Je dis pas qu'on n'aura pas de la misère. On peut avoir de la misère. On peut passer à travers des moments de misère. Mais quand il va répondre, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour nous, puis on va l'apprécier grandement. Si on y fait confiance, il sait quand faire telle et telle chose, beaucoup mieux que nous autres.
Faut persévérer.
Puis c'est justement l'autre idée. Dieu travaille souvent à long terme. Nous autres, on veut toutes les choses à court terme. C'est comme quelqu'un, il lâche l'école, son secondaire, puis il voudrait tout de suite avoir un job à 30$ à l'heure. Mais ça marche pas de même dans la vie. Tu commences au bas de l'échelle, puis là, tu montes tranquillement. Il y a des choses, c'est à long terme. Puis Dieu, avant de nous confier des grosses missions, puis des gros ministères, puis des grosses affaires, il nous demande d'être fidèles dans les petites choses en premier. Il nous demande de faire certaines petites choses en partant, puis là, après ça, il va nous en confier des plus grandes. Alors, regardez bien un principe de Dieu dans la Bible, là, dans Tite 1, le verset 2, qu'on voit que Dieu travaille à long terme, puis ça, c'est très long terme dans cette manière-là. Ça nous parle du salut. Hein? Puis c'était promis, le salut, là, puis le plan du salut en travers Jésus, c'est promis dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Il est en train de nous dire que c'était promis dès les anciens temps, mais ça a été manifesté en son temps. C'est Dieu qui a décidé en quel temps qu'il était pour accomplir le salut, de sauver le monde par son fils Jésus. Mais c'était annoncé dès les plus anciens temps. C'est là qu'on voit comment Dieu travaille à long terme. Il promet des choses des milliers d'années avant, parce que Moïse, c'est 1500 ans avant Jésus, mettons. C'est-à-dire que Moïse a parlé qu'il viendra un prophète, puis tout ça, qu'un celui qui l'écouterait pas serait exterminé du peuple. Les prophètes ont prophétisé qu'il viendra un Messie, et ainsi de suite. C'était tout annoncé des centaines, même des mille ans avant. Puis Dieu, il a, dans son temps qu'il a choisi, c'était le meilleur timing pour envoyer Jésus venir accomplir ce qu'il avait à faire. Si Dieu est capable de gérer ça, lui-là, des milliers d'années, des centaines d'années pour accomplir ses promesses, des fois, dans notre vie, même si ça prendra quelques années avant qu'une promesse soit accomplie, il est capable de le faire. Il nous a pas oubliés. S'il n'oublie pas ses promesses de v'là 1000 ans, il n'oublie pas ses promesses de v'là 5 ans.
Il y a un peu comme Abraham quand il était obligé d'attendre pour son père.
Mais je vais en parler tantôt de ça. Je vais donner des exemples de ça.
Parce que moi j'ai vu mes yeux.
Oui. Savez-vous qu'on n'est pas les seuls à devoir attendre pour l'accomplissement de certaines choses? Jésus lui-même, il a attendu à l'âge de 30 ans avant de faire commencer son ministère. Il était Jésus avant, depuis sa naissance, qui est Jésus avec ses pouvoirs, avec l'Esprit Saint en lui, puis la connaissance de la parole. Il aurait pu commencer bien avant. Il y avait un temps précis. Jésus devait travailler dans la boutique de son père comme charpentier, puis il devait s'occuper de sa mère parce que apparemment que Joseph, on ne le voit plus dans l'histoire de la Bible, ça veut dire peut-être qu'il est mort, puis que peut-être c'était lui qui était celui qui prenait en charge les finances pour pouvoir aider sa mère à vivre humainement parlant, puis on peut voir tirer cette conclusion-là avec d'autres versets qu'on voit dans la Bible. Jésus, il s'est occupé de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans avant d'entrer dans son ministère. Il a attendu, bien qu'il savait, à 12 ans, il dit à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Il savait à 12 ans, mais il a fallu qu'il attende à 30 ans, parce que c'est à 30 ans qu'il fallait qu'il commence à faire son ministère. Dieu, il a un plan.
18 ans, quand
même. Il a attendu au moins 18 ans, puis peut-être qu'il savait avant l'âge de 12 ans. Fait qu'il a attendu, puis il a su attendre quand c'était le meilleur timing pour Dieu. Noé, combien de temps qu'il a attendu? Quand que Noé a eu la vision de Dieu, Dieu lui a parlé, puis Dieu lui a montré une vision d'un arche, puis il a tout dit comment la construire. Puis là, Dieu a décrété un jugement sur la terre que ses jours ne seraient que de 120 ans. Ça veut dire que Dieu avait décrété qu'au bout de 120 ans, le déluge viendrait sur la terre. Puis Noé, ça lui a pris 100 ans à bâtir son arche. Avant qu'il puisse utiliser son arche puis de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, là, il a attendu 120 ans.
Imagine.
Il avait 500 ans quand il a commencé à bâtir son arche. Puis ses trois enfants, Sam, Cham et Japhet, lui ont aidé à bâtir son arche. Puis il était juste sa famille qui a pu être sauvée avec cela, mais Dieu il avait averti qu'il était pour avoir un déluge. Il n'avait jamais mouillé encore sur la terre. Depuis le début de la création, c'était jamais arrivé qu'il mouille. Puis Dieu, non. Fait qu'il savait pas de quoi ce que Dieu parlait quand il parlait d'un déluge. Puis il était en plein milieu d'un grand terrain vaste qui décide de bâtir un immense paquebot de 450 pieds de long, 75 pieds de haut, 150 pieds de large, 3 étages là-dedans, avec plein de compartiments. C'est comme le Titanic, ça-là. Puis Dieu était pour amener un couple de chaque espèce animale, tous ceux qui voudraient que Dieu voudrait préserver, il les a envoyés, un couple de chaque espèce, plus 7 couples de chaque animal pur, il les a envoyés dans l'arche pour qu'ils puissent accomplir sa promesse. Au bout de 120 ans, il a commencé à mouiller, Dieu lui-même a fermé la porte, puis là, le déluge emportait l'humanité en entier avec toute forme de vie terrestre. Mais Dieu l'avait promis, Noé, il a saisi la promesse par la foi. Tu ne pouvais pas avoir une plus grande foi que lui. Il a décidé de bâtir quelque chose dans le désert, quasiment. Décidé de bâtir quelque chose en attendant qu'il se passe un événement qui ne s'est jamais produit sur la terre. Un déluge. Il n'a jamais mouillé seulement. Fait qu'imagine de croire à un déluge. C'est un homme de foi. Il y avait de l'eau, il y avait des rivières, des lacs, de la mer, tout existait, mais il y avait juste une rosée qui tombait pour arroser le sol. Des pluies, ça n'existait pas. Puis ça a commencé à partir de ce moment-là.
Non,
je
savais pas.
Qu'est-ce qu'on pourra dire à propos d'Abraham, qui s'est vu promettre qu'il était pour être le père d'une multitude de nations?
Il n'avait même pas d'enfant.
Puis il n'avait même pas d'enfant. Il était rendu à pas loin de 80 années quand il a décidé de prendre les raccourcis puis d'aller coucher avec sa servante pour avoir un enfant avec sa servante Agar, je pense qu'elle s'appelait.
Ah, c'est ça.
Agar, oui.
Puis c'était pas ça le plan de Dieu. Il a essayé d'accomplir lui-même le plan de Dieu avec ses propres moyens, en prenant un raccourci. C'est sa femme qui a dit de faire ça, mais c'était pas le plan de Dieu. Dieu avait réellement un plan d'envoyer un fils de ses reins.
Ses reins?
C'est de même qu'on dit ça dans la Bible, que c'est de ses reins que il a enfanté, c'est comme s'il parle de la provenance du spermatozoïde, c'est une façon de parler, là. C'est le même qui disait ça dans ce temps-là. Puis c'est à l'âge de 99 ans qu'il a vu sa promesse s'accomplir. C'est une promesse qui aura une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Puis il est mort à 175 ans. Mais il était déjà usé de corps. Ça marchait plus, là. Sa femme avait 90 ans. Elle était ménopausée, sa femme. Elle était ménopausée, puis lui, il était à 99, ça marchait plus. Il a pas douté malgré le fait que son corps était usé.
Mais ils ont ri un peu, hein? Quand...
Ils ont ri, ils ont trouvé ça drôle. C'est vrai. Mais il a quand même... Quand il a eu ses 99 ans, puis qu'il a senti une pulsation, c'est le temps. Tu sais, il n'y avait plus de désir. C'est qu'à un moment qu'il en a eu un, il s'est quand même essayé à 99 ans d'essayer d'en refaire un, puis ça a marché. Dieu lui a donné un enfant. Il a cru que malgré que c'était mort, que Dieu était pour encore l'exaucer, parce que Dieu lui avait dit que c'était pas le sel de sa servante. L'idée, c'est que Dieu nous le dit quand c'est pas le temps, mais il faut écouter. Il faut pas prendre de raccourcis, parce qu'on pêche quand on prend des raccourcis.
On est dedans.
On essaie de dire, Seigneur, tu m'avais promis ça, là. Si tu me le donnes pas, je vais prendre des raccourcis. Mais non, si Dieu t'a promis, mettons, c'est telle personne que faut que tu te maries avec. Si Dieu a promis ça, c'est faut que tu attendes. Si ça prend 10 ans, t'attends 10 ans.
Parce qu'on regarde tout le monde autour de nous, puis on dit, « Colin, je veux avoir qu'est-ce que lui ou elle a là. »
C'est ça. Puis là, on regarde l'autre que ça, on regarde l'autre que ça.
C'est ça que moi, j'ai pas ça.
Puis là, il est important de vérifier notre vision, si c'est vraiment le plan de Dieu, puis de l'attendre avec persévérance. C'est une promesse que Dieu fait, puis il est capable de le faire, même si tout autour de nous semblera contraire. Abraham, tout est à contraire. Il était plus capable, il était trop âgé, sa femme était trop âgée. Puis ça dit qu'il n'a pas douté par incrédulité. Il considéra point que son corps était usé. Il a pas, même si après de 100 ans, puis Sarah était pas en état d'avoir des enfants, il douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Puis il fut fortifié par la foi, puis il a donné gloire à Dieu. Puis il y avait une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Dieu, ce qu'il promet, il est capable de le faire. Son bras n'est pas trop court pour agir.
Non, non.
Ça, c'est dans Romains 4 qui nous parle d'Abraham. Dieu avait annoncé aussi à Moïse que ce serait lui qui libérerait son peuple. Il l'a eu à cœur, il l'a eu la vision à 40 ans. Moïse, là... Il a descendu, il était élevé par les Égyptiens dans la sagesse puis la connaissance des Égyptiens. C'était un homme très haut placé parce qu'il était dans la famille du Pharaon. Il était adopté dans la famille du Pharaon. Mais quand, à 40 ans, il a eu à cœur d'aller visiter ses frères, il a vu comment est-ce que le peuple était traité, puis il a décidé de défendre son peuple. Puis là, il a frappé un Égyptien puis il l'a tué. Puis après ça, il a voulu mettre la paix entre deux Juifs qui se battaient ensemble. Puis là, ils ont dit, « Tu veux-tu nous tuer comme tu as tué l'autre? » Puis là, il s'est sauvé. Mais il avait la vision de libérer son peuple, ses frères et ses sœurs qui souffraient. Puis il l'a pas accompli tout de suite. C'est 40 ans plus tard qu'un ange a apparu à Moïse, puis qui a amené Moïse par la puissance de Dieu pour sortir le peuple d'Égypte. Il a attendu 40 ans. Ça veut dire que Moïse, là, il était dans la terre de Madian, là, en train de penser à ses frères qui pilaient de la brique en Égypte et qui se faisaient maltraiter. Puis il pensait à ses frères pendant 40 ans, puis il n'avait pas la capacité de les aider jusqu'au moment où ce que Dieu, bon, là, je suis descendu pour venir libérer mon peuple. Puis là, tu vas y aller, mais je vais être avec toi. Puis là, c'est Dieu qui parle. Puis là, Dieu, il a dit, c'est moi qui vais libérer mon peuple par un bras puissant. Puis que je vais manifester des miracles. Puis que le pharaon t'a poussé à endurcir. Puis je vais manifester ma gloire afin que ma gloire soit répandue sur toute la terre. Puis c'est ce qui s'est accompli. Tel que Dieu Dieu avait mis ça comme vision à Moïse de libérer le peuple. Mais c'était pas Moïse tout seul qu'il fallait qu'il fasse. C'est Moïse avec la puissance de Dieu. C'est juste 40 ans plus tard. Que parler aussi de l'histoire de Joseph qui a passé plusieurs années en prison. Dieu avait donné un rêve à Joseph. Il a vu son père, sa mère, puis ses frères, sa famille se mettre à genoux devant lui. Puis tous ses frères étaient jaloux de Joseph. Parce que Joseph était le préféré de son père. Puis son père, il avait fait une belle robe. Puis là, quand il était sorti en dehors de d'où il vivait, il s'occupait des brebis, là, ses frères ont dit, ça y est, on se débarrasse de lui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne, puis après ça, ils voulaient le tuer. Puis là, son grand frère, il a dit, non, on ne le tuera pas, mais on va le vendre comme esclave. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Il a été des années en prison. Et après ça, il a été dans la maison de Potiphar. Puis après ça, il s'est ramassé encore en prison. Du temps de prison, là, je sais pas, moins 5-6 ans. C'est-tu intéressant quand tu sais que t'as eu des promesses, t'as eu des visions de Dieu. Puis là, tu passes par la prison, tu passes comme étant un esclave quasiment, puis après ça, finalement, Dieu, il t'élève par des miracles qui t'établit à côté du pharaon, qui était le deuxième personnage. Joseph t'a rendu le deuxième personnage plus important de toute l'Égypte. Puis c'est grâce à une vision de Dieu que l'Égypte était sauvée de la famine. L'histoire des 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Puis que là, ça a fait que l'Égypte s'est venue bien prospère pendant le temps de la famine. Puis que là, les frères de Joseph sont venus chercher du grain en Égypte. Puis ils ont revu leurs frères. Joseph les a reconnus, mais eux autres ne l'ont pas reconnu. Puis c'est là que ses frères sont prosternés devant lui. L'accomplissement de la vision de Dieu s'est fait, mais ça a pris du temps avant de se faire. La même histoire s'est produite avec David, le roi David. Le prophète a oint David comme roi, sauf que Saül, qui avait été rejeté par Dieu comme étant le roi, il n'a pas voulu lâcher sa place. Puis là, David, il était oint comme roi, puis il n'a pas pu prendre sa place. Puis là, à plusieurs reprises, le roi Saül a essayé de tuer David. Malgré que David, il avait reçu l'onction pour être roi, puis il avait la promesse de Dieu qu'il était pour être le roi, il n'a pas pu prendre sa place, ça a pris des années avant qu'il prenne sa place. Puis il a fallu qu'il fuit dans le désert, il a eu peur à sa vie. Puis il a pu monter finalement au bout de 7 ans qu'il a pu monter sur son trône puis de régner pendant 40 ans. Pourquoi devons-nous attendre si longtemps parfois? Pourquoi que ça arrive que Dieu promet des choses puis des fois ça prend du temps avant que les visions puis les rêves puis les buts de Dieu s'accomplissent?
Moi je dis que ce qui me vient à cœur, c'est Dieu, il faut qu'il nous transforme et qu'il nous enseigne.
Exactement. Dieu désire travailler sur nous avant de faire son projet. Dieu, il veut nous préparer. Puis dans la préparation, c'est la même chose que Moïse. Moïse, lui, il lève ses manches puis il frappe le gars de ses forces. Il essayait par ses propres forces d'accomplir sa vision. Puis Dieu, là, il a fallu qu'il amène Moïse avait 40 ans, quand ça s'est arrivé. Il a passé 40 ans dans le désert. Il était rendu à 80.
Mais il ne croyait pas à Dieu encore.
Mais il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Parce que Madian, là, son père, était un sacrificateur de Dieu. Il croyait en Dieu, il croyait au Dieu d'Israël, parce que les Juifs croyaient au Dieu d'Israël, puis ils savaient que le Dieu d'Israël viendrait les délivrer. Puis le peuple attendait un libérateur. Prophétiquement, ça, il piétinait de la boîte en ayant comme pensée, il y a un libérateur qui va venir nous sortir d'ici.
Oui.
Fait que Moïse, peut-être qu'il a pensé que c'était lui, ou peut-être qu'il a essayé de le faire par ses forces, sans savoir que c'était lui. Mais il a essayé quand même par ses forces, puis il est là le problème. Il n'y a aucune œuvre de Dieu qui ne peut être faite par nos forces. Il faut apprendre de dépendre de la force de Dieu. Il faut apprendre à dépendre que ce soit Dieu qui fasse les affaires. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu, puis que Dieu, on se dit, Dieu va m'ouvrir les portes, il va me donner la force pour faire les choses, puis c'est lui qui va faire les miracles, puis toute la gloire va y revenir. C'est pas mes capacités parce que je suis bon que ça va arriver. C'est parce que c'est Dieu qui va le faire. Puis Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance, puis il veut nous apprendre à le laisser nous guider. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit, dans 1 Corinthiens 9, il dit, « Tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Il dit, « Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit, « Que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Ça, il dit que tu n'en mesureras pas, là. Ça veut dire que tu ne mettras pas une muselière après un bœuf quand il est en train de tourner ta meule de grain. Ça veut dire, empêche-les pas de manger ton grain. Puis tu dois travailler, là, en espérant qu'il t'en reste du grain. Puis que le bœuf n'aille pas tout manger. C'est ça qui est l'idée du texte. Ça veut dire que tu dois labourer en espérance que Dieu te donne le grain. Puis après ça, tu dois fouler le grain dans l'espérance d'y avoir part. Dieu veut qu'on apprenne à espérer à lui, à lui faire confiance, puis à s'attendre à ce que lui fasse les choses.
À dépendre de lui.
Oui. Il veut développer en nous l'espérance. Faut qu'on espère que, j'espère que Dieu va m'ouvrir les portes. J'espère que Dieu va m'accorder sa promesse. J'espère que Dieu va faire les choses que j'attends qu'ils soient faites. On espère, puis on apprend à dépendre de lui, puis c'est ça qu'il faut rentrer dans cet enlignement-là. Le délai de Dieu n'anéantit jamais son projet. Ça veut dire que le fait que Dieu ait un délai avant que ça s'accomplisse, c'est pas parce que Dieu veut anéantir ce projet-là qu'il l'étire le temps. Parce que quand il a promis quelque chose, il veut le faire. Puis c'est pas à cause qu'il étire le temps qu'il veut anéantir le projet. Non, il veut le faire encore, même si c'est au bout de 10 ans ou au bout de 40 ans.
Puis il y a un verset qui l'achève aussi. Quand vous priez, demandez ce que vous voulez, mais si ça tarde,
à temps,
ça va venir.
Oui, bien il y a un verset que je vais emmener qui a cette phrase-là dedans.
Ouais.
Dans 2 Corinthiens chapitre 1, ça dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle ». Alors avant de vous dire ça, je vais vous dire, un délai, là, le délai, c'est pas pour anéantir le projet, un délai n'est pas non plus un refus. C'est pas à cause que ça prend un temps avant d'arriver que Dieu a refusé de te le donner. Parce qu'il faut apprendre la différence entre non et pas encore. C'est pas encore le temps. Dieu veut qu'on réalise que une promesse, là, c'est oui ou non ou attends. Attends. Pas encore, là. Attends encore un peu. Attends. C'est pas un refus, ça, attends. C'est « attends, il a décidé de le faire, mais attends, ça va prendre un certain temps, puis lui, il sait quand est-ce qu'il est le meilleur temps pour le faire. » Parce qu'il y a un verset qui nous le dit aussi, « Que Dieu y est fidèle, puis la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Les promesses, c'est oui. C'est pas oui et non. Dieu ne donne pas des promesses pour pas nous les donner.
Non.
S'il nous donne la promesse parce qu'il veut le faire, c'est pas oui et non. C'est oui et oui. Attends. Attends, c'est encore oui, attends. C'est attends. Jusqu'à temps que tu le voyes. C'est ça qu'il faut regarder. Attendez-vous de voir s'accomplir une promesse qu'il vous a faite? Là, je vous pose la question. Attendez, êtes-vous en attente d'une promesse ou d'une vision ou d'un rêve? Avez-vous des choses que vous attendez, que Dieu vous a promis quelque chose? Mais Habacuc 2.3 nous dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » C'est de même que Dieu parle.
Mais comment qu'on fait pour savoir si Dieu a dit oui à notre demande?
C'est plutôt, est-ce qu'il te dit non? S'il t'a mis une promesse dans ton cœur, un verset qui répond à un besoin, mettons, tu as un besoin dans ta vie, puis que, Dieu te met à cœur un verset, là, tu as réalisé, hey, ce verset-là est vraiment une promesse face à mon besoin. Puis là, tu saisis cette promesse-là par la foi, puis tu demandes au Seigneur en prière. Si Dieu t'a donné cette promesse-là, c'est parce qu'il veut te l'accorder. Si tu le mets à cœur, puis tu l'as compris, il veut te la donner, cette promesse-là. Puis si tu la demandes à Dieu, puis Dieu t'a pas dit non, ça veut dire que c'est oui. Parce que c'est arrivé à des moments que des gens ont demandé quelque chose à Dieu, puis Dieu a dit non. Avez-vous un exemple de quelqu'un qui a reçu un non?
Oui.
J'ai déjà...
L'apôtre Paul.
Oui, c'est vrai. Je sais c'est quoi.
Il avait un écharpe dans sa chair.
Ouais.
Trois fois, il a prié le Seigneur pour l'éloigner de lui, puis Dieu a dit non. Ma grâce te suffit, Paul. Puis c'est dans, Dieu servait de ça, de ce problème-là, pour glorifier son nom. Dieu, il a donné une réponse, non. Mais si Dieu, si tu réclames une chose à Dieu, puis c'est un verset, bon, dis, c'est un verset que tu as, là, c'est sûr que Dieu veut le faire. Si tu n'as pas dit non, continue à prier jusqu'à temps que tu l'aies. Crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Ayez foi en Dieu, ça nous dit dans la Bible. Faut prendre les versets tels qu'ils sont écrits puis les réclamer au Seigneur. Puis si jamais là, c'est une chose que Dieu veut vraiment pas te donner, il va te répondre non pour pas te faire attendre pour rien. Mais s'il te dit rien, ça veut dire que c'est oui. C'est oui. Puis attends-la. Puis confesse-la, puis aie foi en Dieu, puis crois que ce que dit Dieu, mais ça va s'accomplir. C'est de même ça marche la parole de Dieu. Puis si ça t'attendre un an, deux ans, cinq ans, c'est une parole qui est chaude dans ton cœur, continue à la garder, tant que Dieu t'a pas exaucé cette prière-là. Puis c'est ça que de marcher par la foi. Mais il faut que ça soit basé sur sa volonté, puis savoir si c'est sa volonté, puis ça soit basé sur la Bible.
C'est
qu'il y a un verset qui le dit, tel sujet que Dieu veut le faire, mais ça veut dire qu'il veut le faire. Dieu n'aura pas promis des affaires dans la Bible s'il n'y a pas l'intention de les faire.
Un drôle d'exemple matérialiste, je suis allée magasiner ma viande à Saint-Louis de Bonsaire aujourd'hui, puis la femme a dit à la caissière, « Tu veux-tu un 6,40? C'est 13 millions, c'est juste 3,50. » Puis elle m'explique tout ça. Puis j'ai dit, « Ah, c'est une tentation. » Mais d'habitude, des tentations, ça vient du Satan. Hein? moi, j'ai dit, « Ben, j'ai jamais acheté un billet de loterie dans ma vie. » Puis j'ai dit, « Moi, c'est le bon Dieu qui s'occupe de moi. » Mmh. Ah, ben, c'est bien comme ça.
Je suis certain qu'elle a été surpris de ta réponse.
Oui, c'est sûr.
Hein? Elle refuse 13 millions, elle.
Puis là, après ça, moi, j'en sais beaucoup.
Le dernier verset, Dieu peut-il accomplir ce qu'il a résolu?
Oui.
Si Dieu a décidé une affaire, est-ce qu'il peut l'accomplir?
Oui.
Certainement. Dans Romains 9, ça nous, au verset 28, ça nous dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » On n'a pas à avoir peur ni s'inquiéter. Si Dieu promet quelque chose, il est capable de l'accomplir. Son bras n'est pas trop court pour agir. Il faut y faire confiance.